أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur, l'élévation, le degré le plus beau, le plus complet, le plus parfait soit accordé à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous accorder l'intention sincère pour rechercher son agrément. Donc toujours la personne renouvelle la bonne intention, comme ça là, les récompenses dans l'au-delà. Donc on avait parlé des miracles des prophètes qui sont, on avait dit, qui sont des choses extraordinaires que Dieu accorde aux prophètes pour les appuyer dans leur prétention à la prophétie. Donc, et Dieu ne confirme pas le menteur. Donc Dieu les confirme, ça veut dire qu'ils sont véridiques. Et on les confirme en leur donnant des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire. Mais on avait précisé, les choses extraordinaires, c'est des choses possibles, rationnelles. D'accord ? Parce que l'impossible, c'est l'impossible. Rationnellement, l'impossible ne peut pas exister. Comme dans la réunion de deux choses opposées, c'est impossible. Donc c'est important. Parce que les gens sont faibles d'esprit. C'est pour ça que les savants, ils enseignaient parmi les par exemple, dans tout le Maghreb, le premier cours, par exemple, c'était dans Batmanouach, le jugement rationnel se divise en trois. Dans Zaytouna, le Qalawin, tout ça, l'Algérie, aux jeunes enfants, ils enseignaient ça là. Parce que d'aujourd'hui, tu vois des gens, certains, ils ont fait des études et puis ils deviennent des athées. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, mais c'est quoi vous racontez là? Comment ça, le feu ne brûle pas ou des choses? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ah, c'est impossible. Donc, confondre. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle impossible habituel. Mais impossible rationnel, c'est vraiment de l'absurde. Ça ne peut pas exister. Donc, les miracles des prophètes, c'est quoi? C'est, ça font partie du possible rationnel uniquement. Donc, toutes les créatures font partie du possible. Donc, y compris les miracles des prophètes, sauf qui sortent de l'ordinaire. D'accord? Donc, ça, c'est un point important. Peut tomber sur des gens, même qui ont fait des longues études, ils sortent des choses comme ça. Dans des pays arabes, moi ça m'est arrivé dans des pays arabes. Donc pour dire, les gens, ils sont loin. C'est parmi les signes de la fin du monde, l'ignorance de la science de la religion. Donc le miracle du prophète, c'est possible. Le feu, c'est un corps, il admet froideur, chaleur. Pourquoi il a la chaleur habituellement? Parce que Dieu l'a spécifié par la chaleur habituellement. Ça arrive qui. Donc il n'a pas cette caractéristique, ça sort de l'ordinaire, tout simplement. Ibrahim ne l'a pas brûlé. Un homme vertueux, Abou Moussa al-Khawlani aussi, un mécréant, l'Aswad al-Ansi, qui se prétendait prophète, il l'a mis, lui et ses sujets, en fait, ils l'ont mis, cet homme-là, dans le feu, il ne l'a pas brûlé. Et Omar, il a embrassé cet homme-là, quand il a su ce qui lui arrivait. Ils l'ont jeté dans le feu, il ne l'a pas brûlé. Et ça arrive d'autres vertueux. Le feu ne les brûle pas. Comme ceux, donc, quand le roi des Tatars, les musulmans, ils ont pris son fils, ils l'ont rentré avec dans le feu, pour montrer que nous, on a la religion de vérité. Il s'est converti. Hulaku, il s'appelait, le roi des Tatars. Il voulait demander une preuve. Ils lui ont fait la da'wah, les savants musulmans, avec les preuves. Et il a demandé une preuve vraiment flagrante. Donc ils l'ont allumé le feu, ils l'ont rentré dans le feu, et il a vu que comme des jardins à l'intérieur, il a raconté. Donc, et alors qu'il est rentré avec eux dans le feu. Et il a été rapporté qu'il s'est converti. Donc les Tatars, parce qu'ils ont fait beaucoup de corruption dans les pays musulmans, en fait. Donc, c'est des choses extraordinaires, mais ils sont possibles, rationnelles. D'accord, donc ça c'est un point très important. Donc, ce qui est étonnant, alors, ce qui est étonnant, mais qui ne sort pas de l'ordinaire, on ne dit pas, comme l'exemple, le vol de l'avion. C'est étonnant, mais c'est pas, ça, on ne dit pas extraordinaire, en fait. extraordinaire, par exemple, si un homme il marche dans le dans, comme ça Ibn al-Rifa'i est arrivé, il donnait l'exhortation devant les gens et puis il faisait des pas en l'air, il revenait. Et un jour, il faisait pour l'exhortation. Donc il mettait une chaise un peu élevée. Lui, il était modeste, mais pour que les gens voient. Élevé, c'est-à-dire qu'il y a, quand il y a une estrade, ça veut dire, mettons, si c'est une estrade, là, c'est du vide. Ben, lui, il faisait des pas dans le vide, il revenait. C'est extraordinaire. Là, extraordinaire. Parce que généralement, ben, avec donc la densité, tu es plus dense que l'air, tu tombes. Mais l'avion, c'est pas extraordinaire parce que c'est quoi? C'est. En fait, il correspond à ce qui est à l'ordinaire. C'est, il fait qu'avec le réacteur, bon, ça fait une portance. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait une portance qui fait partie de l'habituel, comme la portance de l'oiseau. C'est les réacteurs qui font la portance sous les ailes. Non, c'est pas. Mais quand le réacteur ne fonctionne pas, il vole, là, c'est de l'extraordinaire. Donc, bon. Il y en a qui planent, pareil, c'est planeur, c'est la portance qui est sur des grandes ailes. Mais là, ça, on dit étonnant, mais pas extraordinaire. Donc, pour bien préciser. D'accord? Extraordinaire, c'est contraire à l'ordinaire. D'ordinaire, quand tu es plus dense que l'air, bah, tu tends. Bah, si je lâche, il reste en l'air, c'est-à-dire que c'est extraordinaire. D'accord? Donc, c'est clair, la nuance, donc bien comprendre ces subtilités-là, c'est important. Donc, le prophète, il a eu ce miracle-là, des prophètes. Donc, le prophète, il a eu le plus de miracles. Donc, il y a les miracles très connus, le bâton de Sayyidina Moussa, le feu pour Sayyidina Ibrahim, comment il réveille les morts, Sayyidina Issa. La lune s'est divisée en deux pour le prophète. Des gens très loin, ils ont vu. Donc les gens, même de très loin, ils ont vu cela. Le miracle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on a vu ça, et puis on est arrivé. Parmi ce qu'il a eu, c'est voir Dieu. Il a vu le prophète, il a vu Dieu par son cœur et non pas par ses yeux durant cette nuit. At-Tabarani a rapporté dans son Mu'jam al-Awsat, avec une forte chaîne de transmission, comme l'a dit le Hafez Ibn Hajar de Abdullah. Fils de Al-Abbas, que Allah les agrée tous les deux, qu'il a dit Muhammad a vu son Seigneur par deux fois. De même, Ibn Khuzaymah a rapporté avec une forte chaîne de transmission, Muhammad a vu son Seigneur, ce qu'il visait et qu'il l'a vu avec son cœur, pour preuve le hadith de Muslim, citant la parole d'Ibn Abbas rapportée par Abu al-Aliya à propos de sa parole Ta'ala, Ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a afatumaruna ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ce qui signifie, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu, lui contestez-vous donc ce qu'il voit, il l'a pourtant vu une autre occasion. Il a dit, il a vu son Seigneur avec son cœur deux fois. Donc, voilà. Voir Dieu, non, dans cette vie, c'est possible, selon l'unanimité des savants sunnites. Mais qu'elle n'a pas lieu. Selon la majorité, elle n'a pas lieu. D'accord? Parce que la règle chez les sunnites, chez les gens de la vérité, tout ce qui existe, il est valable qu'il soit vu. La condition d'être vu, c'est d'exister, et ne pas d'être localisé. Donc là, le piège dans lequel ils sont tombés, Mu'tazila, comme il a dit Nawawi, il a dit, ils sont tombés dans un piège stupide, c'est qu'ils sont arrêtés avec l'habitude. Le même piège dans lequel sont tombés les mushabbiha, alors qu'eux, ils renient la voie de ceux qui assimilent Dieu à ces créatures, mais ils sont tombés, entre guillemets, dans le même piège. C'est de s'arrêter à l'habitude. L'habitude, ce qui existe, c'est dans un endroit. Donc, ils sont tombés dans ce piège-là, ceux qui assimilent Dieu à ces créatures, avec l'habitude. Tout ce qui existe, il existe dans un endroit. Ça, c'est une habitude. Les créatures existent dans un endroit. Mais, il y a l'être qui n'existe sans endroit et sans comment, c'est Dieu. Donc, et eux, ils ont dit tout ce qu'ils voient est forcément dans un endroit. Les Mu'tazilites, donc ils ont nié complètement de voir Dieu. Dieu, il est sans endroit, c'est vrai. Donc on ne le voit pas. Donc c'est analyse à moitié faux. Dieu est sans endroit. Mais tout ce qui se voit n'est pas forcément dans un endroit. La condition d'être vu, c'est d'exister, ne pas être dans un endroit. Et comme il a dit Nawawi et Ibn Hajar, les grands savants sunnites, ils disent la vision, c'est une force que Dieu donne, que Dieu crée en la personne, et elle ne nécessite pas une quantité, une localisation ou une lumière qui émane de ce qui est vu. Il a dit c'est juste des habitudes qui ne sont pas une nécessité rationnelle, et c'est valable que la vision ait lieu sans ces conditions-là, qui sont de simples habitudes et non pas une nécessité rationnelle. Donc ceux qui ont nié complètement les Mu'tazila, ils sont arrêtés avec l'habitude, le problème. C'est là le danger. Donc les deux groupes sont arrêtés avec l'habitude, ils sont égarés. Donc Dieu existe sans endroit, et il est valable qu'il soit vu sans endroit. D'accord. Donc selon la majorité des savants, elle n'a pas lieu dans cette vie, mais c'est possible. Et si ils ont dit les savants, si Moussa il a demandé de voir Dieu, c'est que c'est valable, parce que les prophètes ils ne demandent pas une chose stupide. Ils sont très intelligents, les prophètes, ils ne demandent pas des choses stupides. Ils ont dit par exemple, ils ne vont pas dire à Dieu est-ce que tu as un fils ou est-ce que tu dors, parce que des gens ils racontent des fausses histoires. Et soi-disant que Moussa il a dit à Dieu est-ce que tu dors, ou des trucs comme ça, ça c'est complètement faux. Il y en a qui racontent ça. Donc on le dit comme ça, le jour où vous entendez, vous savez que c'est... Donc faire attention à cela, il faut mettre en garde, bien sûr, contre cela. Aucun prophète ne pose une question stupide à Dieu. Donc quand il a demandé à Dieu d'être qu'il veut le voir, ça veut dire que c'est valable. Il sait que c'est valable. Et d'ailleurs, parmi les répliques qu'il donnait le Mu'tazila, contre les, qui donnait les sunnites contre les Mu'tazila, il disait, alors comment, soi-disant, les Mu'tazilites, ils ont su ce qui digne de Dieu plus que Moussa? Pas logique. Et comment Moussa aurait demandé si ce n'était pas correct, ou si ce n'était pas valable? Donc c'est parmi les répliques. Donc, si Moussa l'a demandé, ça veut dire que c'est valable, mais Dieu ne lui a pas accordé, c'est-à-dire, l'antarani, c'est-à-dire, tu ne me verras pas. Là, tu ne me verras pas dans cette vie. Donc, et puis le verset est clair. C'est-à-dire, des visages resplendissants, ce jour-là, ils verront leur Seigneur. Et la règle qu'on a dit l'autre fois, c'est qu'on n'interprète pas tout le temps. Parce que eux, justement, ils te disent, ah là, on interprète. Mu'tazila, ce qu'il ne leur plaît pas, il interprète. Non, la règle, c'est les sunnites, c'est pas comme les wahhabites, les extrémistes, ils nient l'interprétation complètement, et c'est pas tout le temps on interprète, c'est pas un jeu. On interprète, la règle, dans la langage, dans la rhétorique, c'est qu'on prend selon le sens apparent, sauf s'il y a quelque chose qui empêche. Et donc le Coran, ça respecte les règles de la rhétorique arabe, les versets sont pris selon leur sens apparent, sauf s'il y a un autre verset qui montre qu'on ne peut pas prendre le sens apparent, et qu'il y a une preuve rationnelle qui montre qu'on ne peut pas prendre le sens apparent, parce que le Coran ne contredit pas la raison. Ça, c'est une règle unanime chez les sunnites, les savants du hadith. On prend selon le sens apparent tant qu'il n'y a pas un texte confirmé qui montre qu'on ne peut pas prendre le sens apparent, ou qu'il y a une preuve rationnelle catégorique qui montre qu'on ne peut pas prendre le sens apparent. Et là, il n'y a pas de preuve. Des visages resplendissants, ils verront leur Seigneur. Wujuh yawma idhin nadhira. Donc, ila rabbiha nadhira. Nadhira, dha, c'est-à-dire resplendissant. Et nadhira, avec le dha. Donc, vous voyez, l'être a changé. Dha, avec le dha, c'est voir. Nadhara, c'est voir. Le premier, nadhira, dha, c'est resplendissant. Nadhara, c'est un bel aspect, un bel donc un visage rayonnant. Donc, ils verront leur Seigneur, tout simplement. Bien sûr, les savants, ils ont écrit comme le Bayhaqi, tout un livre spécialement pour répliquer et montrer que en langue arabe, cette construction n'a le sens que de voir. Parce que Nadhira, quand il y a une préposition qui change avec, on peut avoir le sens de attendre. Comme si c'est en Coran, fanaziratun bima yarji'u al-mursalun. C'est-à-dire que Bilqis, elle attend ce qu'ils vont ramener les émissaires, en fait, comme information. Là, c'est selon la préposition qui va avec. Et là, avec ila, ça n'a que le sens de voir, ils ont dit, dans la langue, chez les Arabes. Ila rabbiha nadira. Il y a la préposition ila, ici, donc ça veut dire ils verront leur Seigneur. Voilà, donc ils ressentent comment, sans endroit, sans direction, pas comme sont vues les créatures. Tout comme ils ont cru que Dieu existe sans endroit, ils le verront sans endroit. Donc le prophète, durant ce miracle, la majorité, il y a une divergence, mais la majorité des savants, ils disent qu'il l'a vu avec son cœur. Donc vous voyez, il y a l'unanimité, il y a la majorité. L'ijma', l'jumhur. Majorité, l'unanimité. Donc la majorité, ils ont confirmé. Donc bien sûr, l'unanimité des savants, ils disent que c'est valable que Dieu vu, qu'on voit Dieu, et c'est valable, et c'est sûr, il sera vu dans l'au-delà. Unanimité. Mais le prophète, est-ce qu'il a vu son Seigneur devant l'Isra, le Mi'raj? La majorité, oui. Il l'a vu par son cœur, pas avec ses yeux. Comme il a dit Nawawi d'ailleurs, quand il répliquait, Mu'taz, il a rapidement comme ça, il dit bon, c'est valable que la vision ait lieu autre qu'avec les yeux. C'est juste une habitude de voir avec les yeux. Ce que Dieu te donne, le prophète, ça, il avait des situations, il voit ses compagnons par derrière. Durant la prière, il voit ses compagnons par derrière. Il voit Jibril, les gens à côté, il ne voit pas. Il disait à Aïcha, Jibril te passe le salam. Elle disait, wa alayhi salam, ya Rasulallah, tara manara, malanara. Oh, messager de Dieu, tu vois ce qu'on ne voit pas. Ils ont dit, celui qui est, il est en train de mourir, il voit l'ange de la mort, et les gens à côté ne le voient pas. Donc, c'est une force que Dieu donne, la vision. Et que ce soit avec les yeux, c'est une simple habitude. N'est pas une nécessité rationnelle. Donc ça c'est des sujets donc importants. Donc il a vu, voilà le verset. D'autres ils ont expliqué en fait le verset qu'il a vu Jibril. En fait le verset qui est cité, qu'il a vu deux fois. D'autres ils ont expliqué qu'il a vu Jibril. Donc qu'il a vu Jibril la deuxième fois avec sa véritable apparence. Donc la majorité, ils disent, le prophète, il a vu Dieu avec son cœur. Donc des savants, ils disent cela. Donc avertissement, Al-Ghazali a dit, la vérité, c'est que le prophète n'a pas vu son Seigneur la nuit de l'ascension. Ce qu'il vit, c'est qu'il ne l'a pas vu avec ses yeux. En effet, il n'a pas été confirmé que le prophète a dit que je l'ai vu, qu'il a vu avec ses yeux, ni qu'un des compagnons des successeurs ou de leur successeur ait dit il l'a vu avec ses yeux. Donc voilà ce qu'ils disent, c'est qu'il ne l'a pas vu avec ses yeux. C'est ça qu'ils visent Al-Ghazali en disant qu'il n'a pas vu son Seigneur, ça veut dire avec les yeux. Il l'a vu avec son cœur. Est-ce que c'est clair? Donc le prophète, il a vu Dieu avec son cœur. Donc dans l'au-delà, tous les croyants le verront. Donc c'est la plus grande félicité des gens du paradis. Il est cité dans le hadith, c'est ce qu'ils aiment le plus. Et al-Tahawi, qu'est-ce qu'il a dit ? وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِلَا إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَةٍ. Dans le traité très connu, il dit... Voir Dieu, il dit voir Dieu est une réalité pour les gens du paradis, sans comment et sans cerner sa réalité. En fait, non. Dans l'autre ordre, ils disent Bila ihata, sans cerner sa réalité et sans comment. Donc, ils précisent sans cerner la réalité de Dieu. ils peuvent pas cerner la réalité de Dieu. Les créatures ne peuvent pas cerner la réalité de Dieu, comme on sait, on connaît Dieu par ses attributs. Donc il a dit, ils le verront sans cerner sa réalité, ils sont comment? Donc ça c'est important. Donc ça c'est dans le mini traité très connu de Tahawi qui a plus de 1200 ans. Sans comment et sans cerner sa réalité. Est-ce que c'est clair? Donc, on croit en cela, sans comment, sans direction, donc sans s'imaginer. Voilà, on croit en cela. Et c'est la plus grande félicité des gens du paradis. Donc, le fait que le miracle est une preuve de la véracité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'arrivée d'une chose extraordinaire qui apparaît aux mains de ceux qui disent être prophète, qui répond à un défi, il ne peut se voir opposer quoi que ce soit de semblable et de même ordre que si Allah disait « Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni ». C'est comme si Dieu disait, ce qui signifie « mon esclave est véridique en tout ce qu'il transmet de ma part ». C'est-à-dire que s'il n'avait pas été véridique dans ses dires, Allah ne lui aurait pas fait apparaître ce miracle. C'est donc comme si Allah disait « mon esclave, celui-là même, qui dit être prophète est véridique dans ce qu'il dit, car je lui fais apparaître ce miracle ». En effet, celui qui déclare qu'un menteur est véridique est lui-même un menteur. Il s'agissant de Allah, le mensonge est impossible. Ceci prouve donc que Allah lui crée ce miracle pour manifester sa véracité, étant donné que toute personne raisonnable sait que le retour des morts à la vie, la transformation d'un bâton en véritable serpent et la sortie d'une chamelle d'une roche compacte ne sont pas des choses ordinaires. Donc Dieu change pour lui l'habitude pour montrer qu'il est véridique. Le moyen de connaître le miracle de façon formelle et avec certitude. La connaissance du miracle a lieu par l'observation. Pour ceux qui sont présents. Donc c'est catégorique. Parce que parmi les sources de connaissances catégoriques, comme il dit Nasafi dans le traité très connu, il dit trois. L'être humain, il a trois sources de connaissances catégoriques. Irréfutables. Parmi eux, il dit la nouvelle véridique, les cinq sens, les cinq saints, la nouvelle véridique et la raison. Ici, ton premier, les cinq sens, la nouvelle véridique et la raison. Quand tu vois, c'est catégorique, tu ne doutes pas que tu as vu. Quand tu mets du sucre dans ta bouche, tu ne doutes pas, peut-être c'est du sel. Tu as une information catégorique irréfutable. Donc la connaissance du miracle. Donc le traité, l'introduction est très très important, il disait ses sources de connaissances. Donc c'est des choses à connaître par cœur en fait. Sources de connaissances catégoriques et réfutables pour l'être humain, les cinq sens, la nouvelle véridique et la raison. Donc il a dit la connaissance du miracle a lieu par l'observation pour ceux qui l'ont vu. Sinon, par l'arrivée de la nouvelle par tawatur à ceux qui ne l'ont pas vu. Parce qu'on a dit les cinq sens et il y a aussi la nouvelle. Véridique, elle est de deux sortes. Une information confirmée sur le dire de nombreux gens qui se réfère à l'observation sensorielle qui se transmet de génération en génération. À chaque niveau, ils sont nombreux. C'est pas une théorie, puis beaucoup de gens ils l'ont. Non. Il faut que ça se base sur une observation. Ils ont vu. Un pays qui s'appelle la Chine, tel royaume, Napoléon, je sais pas quoi. Et ils ont transmis. À d'autres, donc ça entraîne une connaissance catégorique irréfutable. Donc, ceux qui n'ont pas vu le miracle, c'est rapporté par Tawat. Ils étaient, vous avez vu, 1500 environ, quand l'eau est sortie entre les doigts du prophète. Ils étaient, le Coran, nombreux aussi. La nuit s'est divisée en deux, etc. Donc, comme quelqu'un, ils ont dit, quelqu'un, il sait, une telle, c'est sa mère. C'est pas avec la vision, c'est pas avec les cinq sens. Il n'a pas vu, c'est sa mère. Avec quel type de nouvelle? C'est le deuxième type de nouvelle, comment il sait que c'est sa mère. Donc, nier ce type d'information, c'est nier son origine, ils ont dit. Parce que c'est pas avec la raison que tu sais que c'est ta mère. Rationnellement, ça peut être n'importe quelle femme. Et c'est pas avec les cinq sens. Personne n'a vu que c'est sa mère. Alors c'est avec quoi? La nouvelle. Tout le monde autour de toi confirme. Tu doutes pas. Imagine tout le monde autour de toi dit, ah non, c'est pas ta mère. Tu vas douter. Parce que t'as pas vu. Donc, comment tu sais que c'est ta mère? C'est avec la nouvelle. Véridique. Tout simplement. Donc, ceci est comparable à notre connaissance des pays éloignés et des événements historiques indubitables qui sont arrivés à ceux qui nous ont précédés, relatifs aux rois, aux communautés antérieures et à la nouvelle transmise par Tawater, tient lieu d'observation, comme si tu as observé. Il est donc obligatoire, selon la raison, de croire en celui à qui le miracle est arrivé, tout comme cela est obligatoire selon la loi de l'islam. Rationnellement, ça rend obligatoire de croire en la véracité de cette personne qui a ramené ce miracle, à savoir le prophète, les prophètes. Donc l'information catégorique réfutable, elle a trois sources, les cinq sens saints, bien sûr, la nouvelle véridique s'est divisée en deux, en fait. La nouvelle rapportée par un grand groupe de gens qui se réfèrent à une observation sensorielle, entendre ou voir, et à chaque niveau ils étaient nombreux. Et la deuxième sorte de la nouvelle, c'est la nouvelle rapportée du prophète, appuyée par le miracle. C'est la deuxième sorte de nouvelle véridique. Donc c'est comme ça qu'il les classe, An-Nasafi dans son célèbre traité. Donc les cinq sens, la nouvelle véridique de deux sortes, et la raison. La raison qui s'est divisée en cinq, en trois jugements obligatoires, impossibles et possibles. Donc, comment connaître le miracle alors? Par la nouvelle, ou ceux qui sont présents, bah, c'est les cinq sens, c'est-à-dire c'est voir, en fait. C'est voir. Et ceux qui ne sont pas présents comme nous, ça parvient par voie de tawatur. Tawatur notoire, certains ils emploient pour le traduire, notoire, information, sa définition, elle est précise, c'est que c'est une information confirmée sur les dires de nombreux gens, que dès la première couche ils étaient nombreux, et à chaque couche ils sont nombreux, et qui commence par une perception sensorielle. C'est pas une théorie, ça commence pas par une théorie qui a beaucoup d'adeptes, non. Observation sensorielle, donc voir ou entendre. Voilà, c'est pour cela qu'on a vu que ceux qui prétendent que Issa il était crucifié, ils étaient, ça refère à 7 ou 9 personnes et qui étaient en désaccord entre eux. Certains ils ont dit non, c'est le corps de Issa, et d'autres non, ils ont dit là, c'est pas sa tête, etc. Ils ont vu de loin. Et puis c'est une condition que ça contredise pas aussi à quelque chose qui est plus fort. Le Coran, en formation catégorique irréfutable, confirme qu'il n'a pas été crucifié. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc le jugement rationnel alors se divise en trois. Le jugement, c'est quoi le jugement? Comme il dit dans Maya, le jugement, c'est confirmer une chose pour une chose ou nier une chose pour une chose. C'est ça un jugement. Parce qu'il y a des gens aussi, philosophes, qui disent, ah, tu juges personne, on ne juge pas, ceci, cela. Déjà, le fait qu'il parle, il fait des jugements. Donc, il se contredit. Tu ne veux pas vraiment vivre normalement si tu ne fais pas des jugements. Jugement, c'est confirmer une chose pour une chose ou nier une chose pour une chose. Le monde a un début, tu confirmes le début pour le monde. Le créateur n'a pas de début, tu nies le début pour le créateur. Donc c'est un jugement. Le jugement peut être selon l'habitude. Par exemple, tu prends les raisins, c'est sucré, c'est habitué, ou telle nourriture, se digère comme ça. C'est jugement selon l'habitude. Il y a le jugement selon la religion, les cinq prières sont obligatoires. Ce n'est pas selon la raison, c'est selon la religion, ce qui est révélé. Il y a le jugement rationnel. Le jugement rationnel, comme la moitié d'une chose, c'est plus petit que toute la chose. Un corps est nécessairement au mouvement ou immobile. C'est impossible qu'il soit ni en mouvement ni immobile à la fois. La réunion des deux, c'est impossible. Et l'annulation des deux en même temps, c'est impossible. C'est impossible à le corps qu'il soit ni mouvement ni immobile. Qu'il soit en mouvement immobile à la fois, c'est impossible rationnel. Et ce qui est possible, c'est tantôt qu'il soit en mouvement, tantôt qu'il soit immobile. Donc ça, c'est les trois jugements, juste pour le mouvement et l'immobilité. Il dit, Maillard, dans son commentaire, il dit, on peut donner les trois cas obligatoires, impossible et possible, juste avec le mouvement et l'immobilité pour le corps. C'est possible qu'il soit tantôt en mouvement, tantôt immobile. C'est impossible qu'il soit en mouvement immobile à la fois. Et c'est obligatoire qu'il soit mouvement, soit immobile. D'accord? Donc, ça, c'est jugement. Et ça s'appelle jugement rationnel évident. Parce que chacun, ils sont trois jugements, mais chacun, il se divise en deux. Ou évident ou par déduction. Ça, il dit mémoriser ça par cœur, c'est important. Même si tu discutes avec les gens, tu peux discuter fluidement. Des gens qui vont mettre en doute ta religion, des choses comme ça. Évident, ça veut dire que tu n'as pas besoin de réfléchir. Le corps, il est soit mouvement immobile. Il y a aussi obligatoire, mais pas déduction. Il faut réfléchir. Il donne l'exemple, c'est le quart du dixième de 40 est égal à 1. C'est obligatoire, catégorique, mais il faut réfléchir. Quart du dixième de 40. Dixième de 40 est égal à 4, le quart de 4 est égal à 1. C'est important, pourquoi? Parce que quand on dit Dieu existe, ça s'appelle obligatoire rationnel par déduction. Quand on dit Dieu est exempt de l'endroit, ça s'appelle impossible rationnel par déduction. Donc par déduction, on déduit. Une fois quelqu'un qui avait sa mère athée ou je ne sais pas, il m'a posé une question sur ça. Quand j'ai expliqué ça, il a commencé à prendre des cours. Parce qu'il suivait des vidéos des athées, et il disait, qu'est-ce qu'ils disent les athées? Dans leurs vidéos, ils ont des serpents, ils jouent. Ils en disent, ah, vous voyez, il n'y a pas de preuve catégorique que le Dieu existe. Mais là, il m'a dit, il dit ça, il comprend pas, il ne comprenait pas. Il m'a dit, est-ce qu'il y a une preuve catégorique? Je dis oui, mais la preuve catégorique peut être évidente ou par déduction. Le fait qu'elle soit par déduction ne nie pas qu'elle est catégorique. Ah, je me dis, c'est là, il y a la subtilité, j'ai compris. Il est parti au centre, après, il prenait des cours. À Lausanne, ou je ne sais pas où. Juste avec ça, c'est-à-dire les grands savants de l'islam, ils sont très intelligents, qu'ils ont laissé tout ça comme héritage. Ils sont très intelligents. Comme Mayara, tout ça, comme Ibn Hachel. C'est des grands, grands. C'est pas. Ils voient loin, ils réfléchissent beaucoup. Ils n'ont pas cité tout ça pour rien, alors qu'il y a des siècles qu'ils citent. Et c'est utile maintenant. En tout cas, maintenant. Donc, eux, ils jouaient, ils disent catégorique, mais catégorique peut être. Évident ou par déduction. Le quart du dixième de 40, c'est obligé que ce soit 1, mais il faut bien réfléchir. Ben, l'existence de Dieu est obligatoire par déduction. Mais ça, le fait que ce soit par déduction ne remet pas en cause que ce soit catégorique et réfutable. Donc, ça, c'est une notion-là, il ne les cite pas pour rien. Ça, c'est enseigné, ce traité, par exemple, dans toute la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, depuis des siècles. Et donc, voilà, donc vous voyez l'importance de ces détails-là. Maillard, il dit qu'il convient de le répéter jusqu'à ce que devienne fluide. Et c'est vrai que ça te facilite. Si tu vas discuter avec des gens, hop, directement. Tu bloques pas. Affaire classée. Donc, ça, c'est important. Donc, ça peut arriver, surtout des gens qui ont fait des grandes études, soi-disant, etc. Voilà. Un pays arabe, hein, il est athée. Quelqu'un m'a fait médecine, m'a dit, il faisait médecine à Sfax. Il m'a dit, il a peur, il est athée. Les gens, ils entendent l'adhan, tout ça, et ils sont athées. Donc, c'est comme ça. Il y avait quelqu'un, un des frères de l'association, il était au Moyen-Orient, au Liban, je crois. Son frère, pareil, il y avait des communistes dans les facs qui sont restés, il est devenu athée, et quand tu lui as donné des preuves, il a pleuré, il est revenu à l'islam. Ces preuves-là que j'ai décidé, parce que c'est ce que m'enseigne. C'est la voix des prophètes, ce qu'on enseigne. Donc, lui a donné là, donc les preuves, c'est important. Pareil, moi, celui qui étudie en médecine, je citais, il était content. Je citais juste l'introduction là de Noach, preuve rationnelle, tout ça. Il était très content. Ça le protège parce qu'il a peur de les fréquenter en fait. Les gens, alhamdoulilah, même s'il ne connaît pas, il dit, je parle pas avec toi. Il a peur, il entend, ils disent des bêtises. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il y en a, ils tombent dans le piège. Mais quand il a les preuves, il est content. Il dit, ah, mais en fait, il y a des preuves en islam. Donc, voilà, ça c'est important. C'est clair? Question. Donc, jugement rationnel, catégorique, par déduction ou évident. D'accord? Donc, par déduction, ça veut dire qu'il faut réfléchir, déduire des preuves. Le monde change, ce qui change est entré en existence, donc le monde est entré en existence. Donc, il a besoin de qui l'a fait entrer en existence. Celui qui l'a fait entrer en existence, c'est Dieu. Et donc, Dieu, c'est impossible qu'il soit entré en existence parce que cela amènerait à l'enchaînement, et l'enchaînement est impossible rationnellement parce que ça conditionne. Donc, l'existence de la chose présente sur ce qui n'a pas de fin dans le passé, ce qui est absurde. Ça nierait l'existence de la chose présente. Et donc, ils disent ça, ça mène à ça. Donc, quand on refute ça, on montre que Dieu n'a pas de début. Et que forcément, tout ce monde et toutes ces créatures ont un début. Celui qui leur a donné le début, lui, n'a pas de début à son existence. Donc, vous voyez, vous connaissez l'exemple, le fait de conditionner l'existence de ces créatures sur des créatures qui n'ont le passé, c'est comme dire, je te donne 1 euro que si je t'aurais donné avant 1 euro, que je t'en aurais donné, que je t'avais donné, c'est-à-dire c'est conditionner ce qui n'a pas de début dans le passé, donc il ne peut pas avoir lieu, la chose présente. Or, les créatures existent, donc forcément, ça nie l'enchaînement dans le passé. Forcément. Elles ont tout un début, celui qui leur a donné le début, lui, il existe par lui-même, il n'a pas de début à son existence. D'accord? Donc ça, il faut apprendre. Il faut mémoriser. C'est facile, mais ça a besoin de réviser. Alamin. Pas de questions? C'est bon? Ça fait. C'est les heures. C'est clair pour tout le monde? Tout le monde, c'est clair? Tonton, c'est clair, tout. Voilà, parce que les gens, ils sont fatigués à la mandane, donc c'est clair? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.